Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse à travers ce message sur lequel nous allons nous entretenir, et il s'agit d'un grand événement qui nous est rapporté à travers le message de l'Évangile. Eh bien, c'est tout simplement la fête de Pâques, et les protagonistes de notre récit, eh bien, ce sera tout simplement Pierre et Judas. Alors, nous allons lire deux passages pour situer notre réflexion dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 27, verset 3. Alors voilà ce que nous avons sous les yeux. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords, rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant ceci: « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent: « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Voilà pour le sort de Judas. Je vous propose que maintenant nous fassions une deuxième lecture qui concerne l'apôtre Pierre, et dans le livre de l'Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 54. Nous avons un récit un petit peu plus long, mais en effet suffisamment bref pour comprendre l'ensemble de la situation. Alors, donc, Luc, chapitre 22, verset 54. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux, une servante qui le vit assis devant le feu, fixa sur lui les regards et dit: « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant: « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre, l'ayant vu, dit: « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit: « Homme, je n'en suis pas. » Environ une heure plus tard, un autre insistait, disant: « Mais certainement, cet homme était aussi avec Jésus, car il est galiléen. » Pierre répondit: « Homme, je ne sais pas ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite trois fois. Et étant sorti, Pierre pleura amèrement. Voilà pour notre situation dans l'Évangile. Voici deux hommes qui ont en commun quelque chose. Dans l'équipe des 12, Judas et Pierre ont caressé un rêve où, avec Jésus, tout serait gloire et victoire. L'arrestation brutale de Jésus va mettre fin à leur imagination idéaliste. Avec l'événement, ils vont plonger dans la même douleur, l'un d'avoir trahi, l'autre d'avoir renié. Quand chacun a vu leur maître ligoté, sans vouloir même se défendre, Judas s'est pendu de désespoir, Pierre a pleuré de honte sur sa défaillance. Notre vie est comme un petit jardinet près d'un ruisseau, si nous voulons la comparer ainsi. Nous la cultivons avec grand soin, mais il arrive par tant d'orages que la rivière déborde et emporte tout. Ainsi est l'existence que nous remplissons de choses aussi éphémères qu'inutiles, qui font tout notre orgueil sans jamais nous douter qu'une tempête peut à tout un moment, à tout instant, emporter. L'ouragan survient et ne laisse que le fond essentiel, dépouillé de l'artificiel et du superficiel. Il en est ainsi de la vie. On se retrouve devant la vérité de notre être, face à nous-mêmes. Tout ce qui auparavant avait du prix à nos yeux tombe comme une parure flétrie après la fête. Par défaut d'avoir réellement compris Jésus et sa mission, Judas et Pierre étaient à la fin de la fête. Au terme de 3 années exaltantes et pleines d'aventures, Jésus, leur ami et leur maître, allaient au martyr à la croix. Ils étaient loin de s'imaginer que c'était cette destination qui était réservée, selon la volonté de Dieu, de par la volonté de Dieu à Jésus, qu'ils avaient suivi si longtemps. Comme beaucoup de leurs contemporains, le miracle Jésus, si on peut l'appeler de cette manière, Jésus Superman, le leader écouté et vénéré des foules, eh bien, accordait véritablement, eh bien, que tout cela ne finirait pas, que ne finirait jamais. Ils avaient espéré que Jésus, au fait de sa popularité, prendrait le pouvoir et changerait le monde. Il avait tout pour lui, la puissance, l'autorité, la souveraineté, la parole d'un roi, et hélas, tout se termine par une crucifixion, celle qu'on réserve aux brigands et aux malfaiteurs. Et dans l'évangile de Luc, eh bien là, il y a un texte qui nous dit « Mais nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël ». En fait, eh bien, les choses se sont passées complètement et totalement différemment. Le suicide de Judas et les amers remords de Pierre ont pour origine une immense déception. La déception peut engendrer des désastres, briser à jamais des vies, ruiner, voire même tuer. Ainsi, Judas se retrouve avec le sang innocent sur les mains, Pierre, dans la honteuse position d'un lâche. Pourtant, l'aboutissement est différent pour chacun d'eux. La faute de Judas l'a conduit à la mort, celle de Pierre le conduit à la vie. Et c'est bien tout le sens de notre message, de notre réflexion aujourd'hui. Comment expliquer la différence? Dans chaque homme, il y a soit un Judas, soit un Pierre. Alors pourquoi naturellement tout cela? Pourquoi et comment? Pour Judas, c'est une affaire de main dans le plat et de baiser sournois qu'il adresse finalement à Jésus. Pour Pierre, c'est un coq qui chante à l'aurore et d'un regard qui fend et qui brise la pierre. La pierre, entendez le nom de Pierre, la pierre, le cœur de Pierre, qui va véritablement, eh bien là, être complètement bouleversé. Et nous voyons que tout cela, eh bien, constitue la différence entre les deux hommes. Le coq claironne la victoire du jour alors qu'il fait encore nuit. Et nous voyons que Pierre ne peut encore saisir cette signification, car il faut pour l'instant qu'il plonge complètement dans la nuit du reniement. Bientôt se lèvera un nouveau jour où Pierre sera aussi un nouvel homme, c'est-à-dire qu'à sa force, et il reconnaîtra que sa force n'était que faiblesse, son assurance, confusion, et le coq est là pour le lui rappeler. Alors, nous allons, ceci dit, en introduction, nous allons commencer par Judas. Le grand problème de Judas était que dans ses relations avec Jésus, il y voyait que la relation qui rapporte. Ses paroles en donnent la preuve aux prêtres du temple. Lorsqu'il vend son maître, il leur dit « Que me donnerez-vous ?» C'est ce qui était rappelé dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26. « Que me donnerez-vous et je vous livrerai Jésus ?» Le mystère planera toujours. Comment un homme qui a été choisi depuis 3 années, qui a été mis de côté à suivre Jésus, choisi par Jésus, un homme qui est responsable de la bourse, nous dit l'Évangile, à la bourse commune, un homme qui est averti et pu commettre cette effroyable trahison, excusez-moi. Face au cas de Judas, il faut bien admettre qu'en dépit d'un appel personnel, un homme de Dieu, un homme peut bien commencer et mal finir. La Bible nous avertit que nos intérêts ou nos instincts mauvais, si nous les laissons libre cours, nous serons fatales. Les défauts secrets de Judas, entretenus et caressés, ont fini par avoir raison de lui. C'était la cupidité et la soif de puissance, être un homme important. C'est de cela que rêvait Judas. Eh bien, son erreur, c'est qu'il comptait sur Jésus et son influence pour y parvenir. Il n'y a rien de plus faux que de faire de la foi, que de faire de Dieu une source de profit et d'intérêt. La religion où tout s'achète. Judas était tout à fait à l'opposé de l'esprit de l'Évangile. C'est ce que nous rapporte, eh bien là, l'évangile de Matthieu, chapitre 16, versets 24 à 26, vous pourrez le relire. Il s'était donné au Messie avec beaucoup de zèle, parce qu'il espérait tirer avantage du règne messianique. Comment ne serait-on pas riche quand on est destiné à monter sur un trône pour juger Israël ? Ça, c'était Jésus, avait dit cela à ses 12 disciples. Jésus parlait au sens spirituel et non pas au sens naturel et matériel. Judas a fini par le comprendre, mais au lieu de reconnaître son erreur, il s'irrite sourdement contre Jésus. Il en veut à Jésus comme si Jésus l'avait trompé. Judas n'est pas loyal, c'est ce que nous découvrons. Néanmoins, il reste, car la bourse commune a ses petits bénéfices, et pourquoi courir le risque de se séparer d'un homme dont la puissance est surnaturelle, parce qu'il avait vu qu'il y avait quelque chose de, en effet, au-delà de l'humanité chez Jésus. Il y a plus de sécurité, pouvait-il se dire, à feindre être l'ami de Jésus, et Judas a un dernier espoir qui le retient encore, c'est que Jésus, acculé par les circonstances, se manifeste comme le Messie à la fête de Pâques. Et il intronisera, se dit Judas, eh bien, ses apôtres. Et c'est vrai que Judas avait des pensées tout à fait humaines, tout à fait charnelles, et il s'est dit, mais lorsque Jésus sera au pied de la croix ou cloué sur la croix, eh bien, il fera un miracle transcendant. Et là, à ce moment-là, il montrera à tous qu'il est le Messie en, eh bien, descendant de la croix et en dominant finalement, eh bien, tous les éléments de la nature, de la mort même. Bien que des gens veulent de Dieu que dans la mesure où le Dieu auquel ils croient soit populaire et reconnu, en effet, le Jésus-Christ de l'Évangile est obscur et il fait honte. Alors, comme Judas, on le vend pour adorer des idoles. C'est de la superstition, naturellement. Parce que les religions humaines ont cet avantage pratique qu'elles ne remettent pas profondément en cause notre conscience face au péché, au vice, aux trahisons, nos pensées impures, nos mauvais sentiments. La religion s'accommode, eh bien, de tout ce qui peut être accepté. La vérité évangélique, le nom de Dieu, côtoie aisément le plus primitif paganisme, et c'est ce que l'on voit. Et le paradoxe, naturellement, eh bien, il est là. Les exigences de Jésus sont tout autres. C'est la repentance. C'est une nouvelle naissance, c'est la transformation de la vie, c'est la vérité, l'amour d'autrui et puis bien d'autres choses. Judas n'a pas supporté de se devoir se remettre en cause. Il a vendu Jésus pour le prix insignifiant d'un esclave. Et c'est significatif dans ce qu'il nous est dit dans l'Évangile. Il n'a pas fait de cas de la vie de celui qui allait mourir pour le salut de tous les hommes et dont la valeur du sang est éternelle et inestimable. Quel prix a Jésus pour nous ? C'est la question que nous pouvons nous poser devant l'attitude, eh bien, de Judas vis-à-vis de celui qui, eh bien, donne sa vie pour, eh bien, la rédemption de Judas. Alors Judas, c'est le texte qui nous le dit, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné. Et là, il s'est passé véritablement le drame que nous connaissons. Jamais Judas aurait pensé que son geste aurait eu cette sinistre portée, connaissant l'innocence de Jésus, parce qu'il la connaissait, il avait vu qui était Jésus, il supposait que la condamnation se bornerait à quelques peines légères, et le résultat, au contraire, fut la mort, a été la mort la plus horrible, c'est-à-dire la crucifixion. On ne peut jamais mesurer l'étendue de nos mauvaises actions. Judas a toléré le mal dans son cœur, sans vouloir changer. Le suicide moral entraînera le suicide physique de Judas. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la Bible. C'est le verdict le plus réaliste qui soit. Et nous avons naturellement encore un autre texte. Dans Actes, chapitre 1er, verset 18, il nous est donné en condensé, eh bien, qu'il a eu une fin dramatique. Et le texte suppose, eh bien, qu'il a été pendu à sa ceinture, qui s'est rompue, et il est tombé la tête en avant, et son corps s'ouvrit sur les rochers. Ça, c'est ce que nous pouvons, eh bien, là, en déduire de certains commentaires. Sort du méchant selon les psaumes qui rend le mal pour le bien et la trahison pour l'amour. Jésus lui offrait sa grâce et son pardon et il ne l'a même pas demandé. Alors voilà dans quel état pouvait se trouver, eh bien naturellement, Judas. Maintenant, Pierre. Judas caractérisait l'amour de soi. Pierre aimait authentiquement Jésus, mais l'aimait mal. Et c'est bien la différence. Le reniement de Pierre a pour origine ses engagements téméraires qu'il n'était pas capable de tenir et qu'il croyait être capable. Nous avons dans un exemple également, et bien là, l'attitude de Pierre dans Matthieu chapitre 26, versets 33-35. Suivre Jésus n'est pas une petite affaire et ne doit pas être envisagé à la légère. C'est la parabole que Jésus nous donnera et qui demeure finalement, et bien là, une formidable leçon, la parabole que l'on a appelée de la construction d'une tour et le roi qui part à la guerre. Vous pourrez le retrouver naturellement. Si nous partons dans l'aventure de la foi, en comptant sur nos propres forces, en nous appuyant sur notre suffisance humaine, nous ferons l'expérience de Pierre, nous renierons et nous abandonnerons. Quelle triste sœur, parce que nous avons été appelés à mettre toute notre confiance, en effet, eh bien en Dieu. Parce que nous avons des promesses par rapport à cela, que Jésus nous dit que véritablement vous ne serez jamais déçus, jamais confus si vous mettez votre espoir eh bien, dans la personne de Christ. À l'heure de l'épreuve, Pierre, afin de ne pas connaître Jésus, et nous l'avons lu tout à l'heure, parce qu'il a eu peur pour sa vie, et la peur est quelque chose qui s'oppose à la foi. « Quand il me faudrait, dira-t-il, mourir avec toi, eh bien, je le ferai. » Voilà des paroles téméraires. Tant qu'il fallait combattre pour défendre Jésus avec des armes, et je pense à des armes humaines, hein, on connaît l'épisode de l'épée de Pierre qui va couper dans sa colère, eh bien, l'oreille du serviteur Malchus, le disciple se sentait fort, mais quand il a fallu, chose moindre que de sortir une épée, quand il a fallu confesser publiquement que Jésus était son ami, il a éprouvé la peur et la honte parce qu'il sortait du conformisme et du statu quo. Il faut être courageux pour affirmer nos convictions. Et ça, c'est véritablement le rôle et c'est le devoir d'un disciple qui a, au fond de son cœur, eh bien, un attachement profond pour Dieu. « Quiconque aura honte de moi, dit Jésus, j'aurai honte de lui devant mon Père. » Voilà la réponse qui est donnée. Quelle tristesse de voir un homme comme Pierre pleurer comme un enfant. Dans son genre, son péché est aussi coupable que celui de Judas. Alors, d'où vient que le premier en est mort, de n'avoir pas surmonté, et que le second, dans son ressaisissement de foi, y a trouvé l'occasion d'un nouveau départ? La clé et la réponse résident dans l'attitude de chacun face à leur faute. Judas, prenons l'exemple de Judas. Il nous est dit dans le texte, il se repentit en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Il jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. En ce qui concerne Pierre, voilà ce qui nous est rapporté. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre, et il se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Étant sorti, il pleura amèrement. L'un, eh bien là, pleure de remords, l'autre se passe une corde au cou. Le regard de Jésus, parlons-en quelques instants. De prime abord, il semblerait que Judas avait fait le nécessaire pour réparer. En quelque sorte, il nous est dit qu'il s'est repenti, mais de quelle repentance s'agit-il? En fait, il a commis deux crimes, Judas, celui de Jésus et puis son crime le concernant, c'est-à-dire le sien. Sa repentance n'a rien de la vraie repentance qui nous est enseignée dans l'Évangile et qui porte à un changement radical de notre cœur. Son repentir exprime seulement un regret plein d'angoisse à la vue des conséquences d'une mauvaise action. Beaucoup de gens se méprennent entre repentance et pénitence. Et même en ce qui concerne la repentance, eh bien, ils pensent que quelque part, eh bien, elle est surtout motivée par la peur des conséquences de ce qui va arriver du châtiment, alors que la vraie repentance, ce n'est pas ça. Pour échapper, et c'est une forme de lâcheté, alors il se pend. Pierre, c'est le contraire. Ses larmes sont l'expression d'un regret sincère d'avoir offensé Dieu et qui porte à désirer vraiment à changer profondément. Les racines mêmes de son être, eh bien, sont appelées à changer. Judas est le type le type de l'effondrement dans le désespoir, alors que Pierre est à l'image du relèvement et du pardon. Une espérance, un espoir qui, en effet, eh bien là, trouve sa racine et sa conclusion eh bien, au fond des cœurs. L'expérience de la repentance est résumée dans 2 Corinthiens, chapitre 7 et verset 10. Et j'aimerais lire ce texte parce qu'il est essentiel. Il nous est dit, et c'est Paul qui l'explique, en effet, la repentance, parce qu'il est question de cela, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et nous voyons que l'un véritablement est allé vers la vie et l'autre vers la mort. La conclusion pourrait être celle-ci, tout simplement, c'est que le drame de Judas a été d'être incrédule, voire même rebelle, au point de penser que son péché était impardonnable. Et ça, c'est quelque chose de terrible de penser que le péché est impardonnable. Il nous est dit dans la Bible, dans l'Évangile, à travers la foi en Jésus-Christ, que tous péchés sont pardonnés, dans la mesure où on les reconnaît, dans la mesure où on les confesse, dans la mesure où on les ramène, eh bien là, à Dieu, vers Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que, dans notre Père, il nous est dit, pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos fautes. Et nous savons que le prix a été payé. Et à la croix du Calvaire, là où Jésus a été crucifié et est mort, eh bien, Jésus dira, mais tout est accompli, le pardon des péchés est accompli. Alors ça, c'est naturellement le drame de Judas, parce qu'il était incrédule, parce qu'il a refusé, finalement, de croire que le sacrifice de Jésus pardonne tous les péchés. Il faut le croire, tout simplement. Et le salut de Pierre était de croire que toutes fautes sont effacées par le sang de Jésus. Et nous le voyons, et je termine sur cette dernière pensée, nous le voyons à la croix, Jésus, avec ces deux brigands qui sont l'un à droite, l'autre à gauche. L'un va s'endurcir comme Judas, en disant, ben voilà, je n'ai rien à faire de ce juif qui meurt à mes côtés. Et puis l'autre, ce que l'on a appelé le brigand repentant, le bon larron, on pourrait dire cela, qui dira tout simplement dans un cri d'espérance et d'espoir, alors qu'il sait qu'il lui reste plus que quelques heures, quelques minutes à vivre, dira, mais souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne, et nous savons que Jésus lui répondra, mais tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Alors que Dieu nous bénisse à travers cette mémoire, ce mémorial de cette passion de Jésus à la croix, l'expiation finalement, parce que comme on parlait de pardon, eh bien c'est véritablement l'accomplissement total, parfait, complet, eh bien de cette expiation ou de cette substitution que Jésus a accompli à notre place, et nous, il nous reste tout simplement à y croire et à accepter Jésus comme notre Sauveur et Seigneur personnel. Alors que Dieu nous visite, que Dieu nous bénisse, et nous pouvons nous souvenir que, eh bien, dans cette situation de la crucifixion qui nous est rappelée, l'un sera pris, l'autre laissé, l'un sera pris. Nous savons, à travers l'expérience de ces deux hommes, Judas et Pierre, l'un sera pris, l'autre laissé. Alors nous voulons être de ceux qui mettons toute notre confiance en Jésus pour nous sauver, qui nous pardonne nos péchés, et que véritablement nous avons non pas à croire sur nous-mêmes, croire en nous-mêmes, à nos propres forces, mais de nous laisser porter. Et bien par la force de Jésus, il nous est dit que nous pouvons tout, par celui qui nous fortifie, celui qui nous pardonne, celui qui nous a pardonné et celui qui nous sauve pour l'éternité. Que Dieu nous bénisse les uns et les autres. Et merci pour votre écoute.